Merci aux organisateurs, organisatrices et tout particulièrement à Noisselle de m'avoir invité dans cette assemblée. Je suis un peu ému, hein, je vous confie. Bon, déjà, il y a le contexte, et Pierre-Denis l'a très bien rappelé, cet amphi pour nous est très important, c'est le renouveau de l'université, et il vient en plus d'être rénové, donc ça un deuxième renouveau. Et puis, j'ai près de moi deux personnes qui comptent beaucoup pour moi. Daniel Vildecher, qui était mon directeur de thèse, et Bernard Le Chevalier, avec qui je travaille, parce que je parle au présent, je travaille depuis très longtemps. Voilà, donc ça fait vraiment très plaisir, je suis très honoré d'avoir intervenu avec vous. Alors, je vais essayer de traiter le sujet qui n'est pas un sujet facile. Donc, je vais l'aborder par l'angle des pathologies, hein, puisque c'est ce qu'avait demandé de faire avec Bernard, et traiter l'oubli à partir des pathologies classiques, j'ai envie de dire de la mémoire, n'est pas chose facile, et je vais d'abord partir de là. Alors, je ne sais pas qu'on s'appelait avec M. Vildecher, mais j'ai aussi pris Ribot, la mémoire. Et puis à côté, c'est des photos dont je suis très fier, parce que c'est des photos de Korsakov que j'ai prises. C'est la clinique Korsakov, et puis un vitrail de Korsakov que j'ai découvert à Moscou, grâce à Jean-Michel Bernou. Donc c'est des photos que je viens montrer. Bon, c'est la période emblématique du début des travaux sur la mémoire humaine et sur les amnésies. Et en fait, ces patients qui ont des amnésies très importantes ne sont pas des patients, j'ai envie de dire, idéaux pour étudier l'oubli. Parce que ce sont des patients qui ne mémorisent pas. Pour oublier, il faut d'abord encoder, et puis ensuite, il faut du temps pour oublier. Et donc, en fait, on n'est pas dans un modèle pathologique idéal. Et pendant très longtemps, en fait, on ne va pas vraiment étudier l'oubli, parce que le modèle pathologique qui permet d'étudier la mémoire, ben, ce sont ces grands patients amnésiques. Alors, tout de même, il y a une petite nuance avec Ribot, parce que même s'il n'utilise pas ces termes d'oubli, il dit quand même que le récent s'efface avant l'ancien. C'est ce qui va devenir, ce qu'il va appeler lui la loi de régression, puisqu'on appellera plus tard la loi de Ribot, le gradient de Ribot. À savoir qu'on va mieux conserver, surtout si on a des troubles de mémoire, on va mieux conserver la mémoire lointaine que la mémoire récente. Donc là, il y a une dimension temporelle qui est intéressante et que je vais reprendre plus tard. Bon, juste une diapo qui nous rapproche un petit peu hein, du temps présent, c'est les années 50, c'est HL, le patient HL de Brenda Milner. Bon, en fait, pas grand-chose de nouveau, hein, puisque HL est un patient, là aussi, qui a des troubles très importants de l'encodage. Et donc, le problème n'est pas pour lui d'oublier, puisque en fait, il ne forme pas hein, de souvenirs. Et en fait, les pathologies de l'oubli, on va en avoir assez peu. Il y a des formes qui sont décrites d'oubli accéléré, dans certaines épilepsies. Mais en fait, là aussi, c'est un modèle pathologique qui est difficile, parce que ce sont des patients qui sont épileptiques et qui, en même temps, vont faire, par définition, des crises d'épilepsie. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très, très facile à exploiter. Alors, je présente ce modèle de Tolving sans le détailler, parce que vous le connaissez. Je ne vais pas exploiter dans ce petit exposé toutes les facettes de l'oubli. On aurait trop, mais je vais me focaliser sur un duo qui me paraît important, qui est le duo mémoire épisodique, mémoire sémantique. Mémoire sémantique, mémoire des connaissances générales sur le monde et sur soi-même, et puis mémoire épisodique, qui est la mémoire, la vraie mémoire, j'ai envie de dire, la mémoire des souvenirs, avec cette impression de reviviscence. Et puis, vous voyez que dans cette pyramide de Tolving, cet auteur introduit au milieu, entre les deux, la mémoire de travail, donc qui est une mémoire à court terme, un petit peu banale dans un premier temps, et qui de plus en plus devient ce qu'on appelle aujourd'hui un working self, c'est-à-dire, pour reprendre les conceptions qui ont été introduites par Nadine, hein, en référence à Ricoeur, c'est le soi à un moment présent, c'est le présent psychologique, et donc qui va bien sûr guider nos actions et qui va avoir un rôle très important dans les choix, et dans les choix éventuellement de ce qui sera oublié plus tard. Alors, le patient qui a permis d'avancer dans cette distinction épisodique-sémantique, c'est le patient Kissy, donc décrit par Wendel Tolkien, qui est en photo ici, juste en face, dans le château. Hein, vous avez peut-être traversé le château pour le convenir. Il nous avait rendu visite il y a quelques années. Alors, son patient ici, c'est un patient, je raconte pas l'histoire clinique, hein, qui a fait plusieurs traumas crâniens, qui a des troubles de mémoire très importants, qui a des fonctions cognitives par ailleurs tout à fait bonnes. Et ce qu'a montré Wendel Tolkien avec lui, il a montré que ce patient avait une amnésie entérograde massive, ça c'est assez facile à démontrer, mais en même temps que ce patient acquiert des concepts nouveaux, hein, tout en étant extrêmement amnésique. Ça, il l'a très très bien montré avec des méthodes expérimentales, et puis des méthodes plus de la vie courante. Il a montré par exemple qu'il utilisait avec des séances des concepts nouveaux, par exemple SIDA, qui n'existait pas au moment où il a été blessé. Et puis même chose pour l'amnésie dite rétrograde, hein, l'amnésie du passé. C'est un patient qui ne peut pas rappeler les souvenirs de son passé, par contre il sait tout à fait qui il est, il peut dérouler l'histoire de sa vie. Hein. Donc il a une connaissance sémantique de lui-même sans souvenir. Alors, peut-être plus impressionnant encore, ça c'est pas une découverte d'Wendel Tolkien, mais c'est une découverte qui s'inscrit complètement dans sa conception. C'est un article que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu. Hein, il a donné lieu ensuite à beaucoup de débats, des numéros spéciaux, etc. C'est un article qui est paru dans Science, publié par une équipe anglaise, Faraday Varga Kadem, qui porte, dans un premier temps, le premier papier porte sur trois enfants. Trois enfants qui sont examinés à l'adolescence. Ce sont des patients qui sont amnésiques. Hein, on a une amnésie autobiographique qui oublie les petites séquences de la journée, qui ne sont pas capables de raconter ce qui s'est passé à l'école, etc. Et ce sont des enfants qui ont été victimes de lésions précoces des hippocampes. Et notamment, il y a un patient qui va être suivi avec beaucoup de détails, qui s'appelle John, qui a des lésions néonatales des hippocampes. Donc, il est né comme ça avec des lésions de ces régions qui sont très importantes, qui sont les lésions d'HL, hein, du fameux patient HL. Et que deviennent ces patients? La question n'est pas évidente, c'est quelque chose qui n'avait jamais été décrit. Comment se comportent ces patients quand ils sont examinés par ces neuropédiatres? Premièrement, ils sont amnésiques. C'est pour ça, en fait, qu'ils sont arrivés chez les neuropédiatres. Et comment ça se manifeste? Eh bien, dans la vie courante, ils ne sont pas capables de raconter les petites anecdotes qui se passent à l'école, ce qu'on raconte aux parents quand on est enfant, quand on rentre de l'école. Les résultats aux tests de mémoire sont abaissés. Mais par ailleurs, ça c'est tout à fait troublant, par ailleurs, ces enfants ont des fonctions cognitives normales, enfin normales, oui, dans un sens statistique du terme, quand on utilise des tâches qui ne sont pas des tâches mésiques. C'est-à-dire qu'ils ont des QI au-dessus de la moyenne, ils ont des résultats normaux ou quasi-normaux dans toutes les tâches scolaires. Vous voyez, ce qui est quand même extrêmement troublant. Ils ont appris le langage normalement, etc. Et puis alors, là encore, pour donner des éléments à ce phénomène de l'amnésie infantile, ces enfants qui ont été malades ont bien sûr été suivis très près par leurs parents, par les éducateurs. Et en fait, il y a toute une période de leur développement. Je vous rappelle que les lésions sont néonatales. Et en fait, toute une période de leur développement où les enfants, où les parents constatent rien de particulier. Les premières années, et l'acquisition du langage, etc. Et maintenant, il y a eu beaucoup d'autres enfants décrits, et l'histoire est toujours à peu près la même. Les parents se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vers l'âge de 5, 6, 7 ans. Vers l'âge de 5, 6, 7 ans, en fait, l'amnésie, hein, le syndrome amnésique, se révèle à ce moment-là. Vous voyez, ce qui est quand même extrêmement troublant. Et auparavant, eh bien, les parents ne constatent pas un dysfonctionnement patent de la mémoire. Voilà, je vous livre ces faits, hein, puis après on essaiera de faire une petite synthèse qui permet de rassembler tout ça. Alors, on s'est beaucoup intéressé, après ces publications, à des enfants qui avaient comme ça des troubles de mémoire. On a travaillé à Paris avec Daniel Parisot, qui est là, avec Sylvie Martins, qui est là aussi. Je suis aussi très content de retrouver des amis. C'est la partie gauche de la diapo, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé de façon prospective avec des enfants très amnésiques, et on a montré qu'on pouvait apprendre des concepts. Là, j'ai pris un exemple qui est joli, parce que c'est un oiseau que cet enfant ne connaissait pas, mais on a essayé aussi de leur apprendre des concepts utiles, tout en montrant par ailleurs que ces enfants n'avaient aucun souvenir de comment ils apprenaient ces concepts. Vous voyez, donc cette dissociation épisodique sémantique, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on constate, c'est quelque chose que l'on peut utiliser à des fins thérapeutiques. Et puis l'autre volet, ça c'est un travail que l'on a fait avec Pascal Piovino et une étudiante qui s'appelle Laurence Picard, c'est qu'on a étudié le développement de cette mémoire autobiographique chez l'enfant, par l'enfant qui grandit, l'enfant jusqu'à l'adolescence, et on voit que cette mémoire épisodique, hein, cette capacité à rappeler des souvenirs, elle se développe longtemps, jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, il se passe d'autres phénomènes que je vais pas décrire là. Donc il y a un phénomène quasi linéaire jusqu'à l'adolescence. Alors, les modèles pathologiques dont je viens de parler, je pense qu'ils sont intéressants. Enfin, moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup, hein, sur lequel on travaille ensemble avec Bernard depuis des années. Bon, ils ont leurs limites, comme tous les modèles, il faut en avoir conscience. Il y a une entrée qui est assez intéressante, qu'on a beaucoup développée à Caen pour des raisons historiques, pragmatiques, etc. C'est l'étude de certains syndromes amnésiques très particuliers où on n'observe pas, contrairement à d'autres modèles pathologiques, de phénomènes de réorganisation, parce que c'est un petit peu la limite de ces modèles pathologiques de façon générale. Et heureusement, quelqu'un qui a une lésion cérébrale, une maladie cérébrale, il y a des phénomènes de compensation qui se mettent en place, il y a la rééducation qui va aider, etc. Là, on est dans une autre situation, parce que la diapo que je montre là, c'est l'ictus amnésique idiopathique. C'est quelqu'un comme vous et moi, en bonne santé, et tout d'un coup, le patient devient amnésique. Le patient devient amnésique, ça dure quelques heures. Le patient arrive aux urgences du CHU et pour certains d'entre eux, on va pouvoir examiner ce patient dans un cadre un peu particulier, à la fois médical, physiopathologique et neuropsychologique pour certains d'entre eux. Et là, je vous livre un petit travail que l'on a fait avec Béranger Guillory, qui a fait sa thèse sur le sujet. On a proposé à des patients, là je prends l'exemple d'une patiente, un paradigme qui avait été mis au point par l'équipe de Schachter pour étudier des patients avec un syndrome amnésique permanent. En fait, on a adapté ce protocole à l'ictus amnésique. Alors, je vais vous tester, vous jouez le jeu si vous voulez, je vais vous donner une des phrases qui a été utilisée dans ce paradigme. Alors, la phrase, vous allez voir, elle est syntaxiquement correcte, mais elle est a priori pas évidente à comprendre. Alors la phrase, c'est la meule de foin, vous voyez ce que c'est une meule de foin, la meule de foin prenait de l'importance car la toile s'était déchirée. Vous voyez, c'est une phrase qui est condamnable. Mais ceci dit, c'est pas facile à comprendre. La meule de foin prenait de l'importance car la toile s'était déchirée. Alors, le patient amnésique, il est comme vous. Voilà, c'est-à-dire qu'il me regarde de travers et il a la capacité, il a un encan à court terme qui lui permet de maintenir cette phrase dans son esprit, dans son présent psychologique, mais il est comme vous. Et à ce moment-là, je lui donne un mot. Je le préviens, je lui dis, je vais vous donner un mot-clé, et avec ce mot-clé, théoriquement, vous devez comprendre la phrase. Donc je fais la même chose avec vous, et je vous dis parachute. Ça va ? La meule de foin prenait de l'importance, car la toile s'était déchirée. Parachute. Vous êtes dans un parachute, si on peut dire. Vous tombez en parachute, la toile s'est déchirée, et la meule de foin prend de l'importance. Et à ce moment-là, donc, le patient explique ce que je viens de faire là. Oui, je comprends la situation, etc. etc. On arrête les choses, et ensuite, la patiente s'en va passer des examens, des objets, etc. Elle revient deux heures après. C'est une collègue qui la voit, qui l'avait vue, donc cette patiente. La patiente ne se souvient pas de la collègue, du bureau, etc. Cette patiente ne se souvient de rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Parce qu'un ictus amnésique, c'est un oubli à mesure. Vraiment, deux minutes après, les patients ne se souviennent de rien. Et la collègue, donc Catherine Lalevé, redonne cette phrase, de foin, etc. Et là, la patiente explique. d'accord, explique sans, bien entendu, le parachute. Vous avez bien compris, sans parachute. Vous voyez, là, la dissociation épisodique sémantique, elle est très forte. Et le lendemain, même chose. Le lendemain, la patiente, en l'occurrence, a recouvré ses facultés amnésiques, mais a conservé une amnésie lacunaire totale de l'épisode amnésique, pour toujours. Pourtant, si on lui donne à nouveau la phrase, elle explique la phrase sans parachute. Voilà un peu un exemple de cette dissociation. Alors, ceci dit, ce n'est pas toujours le cas. Et là aussi, je fais référence à une pathologie, bon, je ne vais pas l'appeler hystérique, mais on est dans le même cas, hein, on est dans les amnésies psychogènes, fonctionnelles, on les appelle comme on veut. C'est un patient qui nous avait été présenté au staff par Didier Anquin, hein, monsieur Chevalier connaît bien, il y a quelques années. Je ne vais pas raconter toute l'histoire médicale qui est pas passionnante, mais qui montre que ces amnésies dites psychogènes peuvent avoir une intensité et une qualité beaucoup plus importante que ce qu'on observe dans certains syndromes amnésiques permanents, disons classiques, organiques. Donc ce patient, tout ça a commencé brutalement, il a une amnésie d'identité, une amnésie rétrograde massive, il a perdu le sens des mots, il a même une amnésie procédurale, c'est-à-dire qu'il ne savait plus lasser ses souliers. Et puis les choses sont rentrées dans l'ordre, hein, progressivement. Il a réappris un certain nombre de choses, on lui a réappris un certain nombre de choses. Et j'ai juste cité cette anecdote, parce que je ne vais pas passer trop de temps. Comment se manifestait son amnésie sémantique? Il avait à la fois une amnésie épisodique très importante et une amnésie sémantique. Et comment ça se manifestait? Je crois que ça, on ne peut pas l'inventer. C'était au moment de Noël, et le patient donc, était pris en charge par une psychologue allemande, se confiait à elle, elle lui disait tout de suite, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que dans ces amnésies, ce qui est très particulier, c'est qu'il n'y a pas d'amnésie entérograde. C'est-à-dire que les patients réapprennent. Ils réapprennent, mais sans pouvoir revivre leur passé. Donc ils réapprennent quelque chose de complètement nouveau. Et ce qu'il racontait à sa psychologue, c'est tout de suite, il se passe quelque chose de très bizarre, c'est que les gens installent des arbres dans les maisons. Mais les arbres dans les maisons, c'était le sapin de Noël. Ce qui est quand même quelque chose de... Enfin, moi qui m'avais tout à fait surpris, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer, quoi. Raconter un truc pareil. Alors ça c'est un élément de discussion. Ce patient, il avait des examens médicaux complètement normaux. Il a eu 36 000 du IRM, etc. Et en fait, on l'a fait venir ici à Cicéron. Et c'est Béatrice Desgranges qui avait fait toute l'analyse. Donc, parce qu'on peut faire des analyses avec des cas uniques, comme ça, comparé à des groupes contrôles bien appareillés, même âge, etc. Et en fait, on a montré chez ce patient une anomalie de métabolisme cérébral extrêmement localisée. Donc, dans la région du faisceau inciné droit. Donc, je vous parlerai après, si j'ai le temps, du cortex préfrontal droit, hein, qui est spécialisé dans la récupération des souvenirs épisodiques. Ça, ça a été montré aussi par l'équipe de Tolkien. Et ce faisceau inciné, justement, est le faisceau qui relie le cortex frontal au cortex temporal. Et il avait juste un hypométabolisme de cette région. Bon, je ne vais pas digresser sur la cause, la source de tout ça, mais disons que le fait était quand même troublant. C'est une observation qu'on a publiée. Hein. Voilà. Bon, alors ça, je voulais, si on a un petit peu de temps, vous parler de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est une des grandes pathologies de la mémoire. Et puis, c'est vrai que les neuropsychologues ont beaucoup travaillé sur la maladie d'Alzheimer dans un premier temps, parce que c'est un problème de santé publique. Et puis, ça a donné lieu aussi à des travaux, je pense, théoriquement, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, théoriquement intéressant. Alors, il y a l'oubli des mots. Hein, l'oubli des mots, ça nous embarrasse tous les jours. Et dans la maladie d'Alzheimer, ça prend une ampleur beaucoup plus importante et ça peut aller jusqu'à la perte du concept. C'est-à-dire que quelqu'un normal, schématiquement, va oublier le mot et va le retrouver, alors que dans ces pathologies dégénératives, pas uniquement dans l'Alzheimer, l'oubli de mots peut aller jusqu'à la perte du concept. Alors, C'est une série de travaux qu'on a menés et que j'aime bien, donc avec Bénédicte Giffert ici qui est à l'université, et puis Michael Lenné qui est maintenant à l'INSERM. On a publié toute une série de travaux depuis une dizaine d'années en utilisant un paradigme d'amorçage sémantique. Alors, je vous explique comment ça se passe. Le contexte général, donc c'est ce qui est en bas, c'est une tâche de décision lexicale. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de répondre le plus vite possible en appuyant sur un bouton, en lui demandant est-ce qu'un mot est ou non un mot. D'accord ? Puis ça, c'est le contexte général. Et puis ces mots, ils sont en amont amorcés. C'est-à-dire qu'ils sont mis, vous voyez, par exemple, tigre-lion, donc il y a une amorce qui a un lien sémantique avec le deuxième mot. Éléphant-trompe, il y a également une amorce sémantique. Et puis chaise-herbe, il n'y a pas de lien évident entre chaise et herbe. Et ce que l'on va mesurer, donc, c'est la. Le temps de réponse est le gain du temps de réponse qui est observé quand le mot est amorcé versus quand le mot n'est pas amorcé. Et puis, les réponses, quand il s'agit de non-mots, on n'en tient pas compte, c'est simplement le dispositif expérimental qui nécessite cela. Alors, vous voyez en fait qu'il y a deux situations expérimentales qui nous intéressent. Il y a une situation dite de coordination, tigre-lion, c'est-à-dire qu'on est au même niveau dans la hiérarchie des concepts. Et puis il y a une relation d'attribution, l'éléphant à la trompe, hein, on est dans un niveau distant dans la hiérarchie du concept. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé ces tâches à des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Il y a deux groupes, il y a un groupe A et un groupe B. Le groupe A, c'est quand on propose des tâches, d'autres tâches sémantiques, par exemple des tâches de dénomination, de désignation d'images, etc. à ces patients, les patients réussissent. Et puis il y a un groupe B où les patients présentent déjà dans ce genre de tâches des troubles sémantiques. Et ce que l'on voit, donc c'est la partie gauche de la diapo, c'est qu'on voit que dans la relation de coordination, on observe chez les patients qui avaient déjà des troubles sémantiques un effet d'amorçage qui est plus important, je dis bien qui est plus important, que chez les contrôles. C'est-à-dire qu'ils bénéficient plus de l'amorçage sémantique que chez les contrôles. Et cela uniquement dans la relation de coordination tigre-lion. C'est-à-dire que tigre amorce plus lion chez les malades que chez les contrôles. Et c'est vérifié, donc c'est ça, c'est vérifié ensuite, donc dans le groupe, vous voyez qui est rose, hein, le groupe qui n'avait pas de trouble au début, et 6 mois plus tard, on voit apparaître cet hyperamorçage qui tend à décliner dans le premier groupe. Donc vous voyez, on est en présence d'un effet fugitif. Effet fugitif qui disparaît, sont des mesures qui sont faites de 6 mois en 6 mois. Et ce que vous voyez, c'est que cet effet d'hyperamorçage, on ne l'observe que dans la relation de coordination. On ne l'observe jamais dans la relation d'attribution. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'hyperamorçage dans cette relation asymétrique. Et au contraire, il y a un effet d'hypoamorçage qui va apparaître à un moment donné. Alors, je pense que c'est un résultat intéressant. Bon, c'est un résultat intéressant pour comprendre des symptômes. On peut les paraphasies sémantiques, les manques du mot, etc. Dans ce genre de maladie, parce que ce n'est pas uniquement dans la maladie d'Alzheimer, on peut observer ça dans d'autres maladies dégénératives, notamment dans la démence sémantique. Mais vous voyez ce qui se passe, on peut représenter ça sur ce petit schéma. Donc on a progressivement, ça on observe ça chez tous les patients, une diminution de cet effet d'amorçage dans la relation d'attribution. Hein, en clair, le tigre perd ses rayures, le lion perd sa crinière. Et en même temps, vous voyez, de façon presque mathématique, logique, ces concepts perdant leurs attributs spécifiques, eh bien, deviennent des concepts quasi identiques. C'est-à-dire des espèces de gros chats sauvages. Et donc, du coup, la relation sémantique devient très forte entre les deux. C'est en fait cet effet qui semble être voyez, un effet plus important que chez les contrôles, en fait c'est un effet négatif. Ce qui montre un petit peu la difficulté de ce genre d'analyse quand on n'est pas dans un modèle un petit peu précis. Il me reste un petit peu de temps.
Oui.
Oui. Alors, je vais parler aussi un petit peu de la mémoire autobiographique. Ça, c'est des travaux qui ont été faits aussi dans l'unité. On s'est intéressé donc avec des questionnaires mis au point de très très précis, notamment ce qui est observé dans la maladie d'Alzheimer. Alors, Cette diapo fera plaisir à Rigaud, hein, puisque c'est le gradient de Rigaud, hein, puisqu'on voit que quand on remonte dans le passé, eh bien, les patients qui ont une maladie d'Alzheimer ont moins de déficit quand on remonte dans le passé. Ceci dit, il y a quand même un déficit qui est observé, quelles que soient les périodes de vie. Donc ça, c'est le résultat cognitif qui a été maintes fois vérifié. Donc, dans notre unité et dans d'autres unités. Par contre, le travail que je vous montre là, c'est un travail vraiment original et je pense qu'il est intéressant. Et là, on commence à toucher du doigt ce phénomène de l'oubli et comment on peut expliquer, donner des éléments d'explication à ce phénomène de l'oubli. Ce qu'on a fait, donc c'est sur un groupe de patients atteints de maladie d'Alzheimer, on a corrélé les scores de mémoire autobiographique que je viens de vous montrer, qui sont tous pathologiques, même s'il y a un gradient de Rigaud, on les a corrélés avec le métabolisme cérébral étudié en tomographie par la vision positive. Et ce que l'on observe pour la période récente, ce sont des corrélations avec des régions qui sont impliquées dans la mémoire épisodique. Les hippocampes, on voit, c'est une tâche centrale, et puis le cortex préfrontal droit, dont je vous ai dit que ce cortex préfrontal droit, il est impliqué dans la mémoire épisodique. Ça, c'est une théorie qui a été développée, qui s'appelle le modèle ERA, ERA pour hémisphéric encoding retrieval asymétrie, à savoir que l'hémisphère droit est plus impliqué dans la récupération des mémoires, des souvenirs épisodiques, et l'hémisphère gauche, le cortex préfrontal gauche, dans la récupération des informations sémantiques. Donc voilà ce qui se passe pour la période récente. Quand on s'intéresse à la période dite intermédiaire, on n'a plus d'implication des hippocampes, et les hippocampes qui ont un rôle extrêmement important dans la mémoire épisodique. Et on est dans une période un petit peu charnière, c'est-à-dire qu'on a les deux lobes frontaux hein, qui sont corrélés avec ces tâches de mémoire épisodique concernant cette période intermédiaire. Et puis enfin, quand on s'intéresse à la période du passé, hein, c'est-à-dire que c'est des patients qui parlent de leur adolescence, de leur période jeune adulte, eh bien, les corrélations ne concernent cette fois-ci plus que le cortex préfrontal gauche, dont je vous ai dit, hein, qu'il est spécialisé dans la récupération des mémoires sémantiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça nous parle sur le devenir des souvenirs, le devenir de beaucoup de souvenirs, à savoir que quel est le destin de ces souvenirs, c'est en grande partie de se sémantiser au fil du temps. Et en fait, ça nous permet de mettre en relation la théorie de Rigaud, ce que nous avait montré Rigaud avec le gradient de Rigaud, ce qu'il appelait la loi de régression, et puis une théorie qui a été développée par un auteur dont psychologie qui est important, qui est Cermak, qui lui a expliqué ce gradient d'amnésie par la sémantisation des souvenirs. C'est-à-dire que, et c'est le point, c'est que je voulais aborder dans mon exposé, que les neuropsychologues ont mis du temps à aborder, c'est cette définition de l'oubli qui n'est pas simplement perçue comme quelque chose de négatif, hein, qui serait un peu l'inverse de la mémoire si on allait très vite, mais au contraire comme quelque chose, comme un mécanisme reconstructif extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension, cette fois-ci, de la mémoire qui construit, et l'oubli, c'est un des ingrédients, un des mécanismes essentiels de cette mémoire qui construit. La mémoire qui construit, c'est-à-dire que la mémoire qui devient en partie, hein, on part de situations épisodiques et puis on va vers des souvenirs qui vont de plus en plus se sémantiser. Je ne dis pas pour autant qu'il n'y a pas maintien de souvenirs épisodiques tout au long de la vie, avec des souvenirs épisodiques qui vont avoir un rôle tout à fait particulier, notamment pour le maintien de l'identité. Dernière diapo, et puis je m'arrêterai là. Ça, c'est un travail qui ne porte pas sur des patients, qui porte, dans un premier temps, le travail que je vous montre là, qui porte sur des gens jeunes. Donc, il y a une première phase, sur la gauche, où on fait encoder des images. On monte beaucoup d'images à des sujets. On leur demande de traiter ces images pour essayer de les mémoriser. Et puis ensuite, il y a une nuit de sommeil, et éventuellement une nuit de privation de sommeil. Je ne vous parlerai pas de la privation de sommeil, c'est un paradigme qui a été mis au point par Géraldine Roche dans notre unité qui est spécialisée dans l'étude du sommeil. Et puis ensuite, et ça je pense que c'est très intéressant, Et pour des raisons diverses, les psychologues, les neuropsychologues sont un peu passés à côté de ce genre de paradigme pour des raisons pragmatiques. On fait une IRM fonctionnelle quand les patients, quand les sujets, pardon, quand on leur demande de reconnaître les images vues, pas vues. 3 jours après et 3 mois après. Et ça, c'est original. Et d'étudier le devenir comme ça des traces mnésiques sur un temps relativement long. Et le résultat est là, à savoir que on demande au sujet de reconnaître les images et de qualifier, donc avec des méthodes qui sont mises au point maintenant en psychologie, pour essayer de voir si la reconnaissance du sujet, c'est une reconnaissance qui correspond à un souvenir, un véritable souvenir de la scène initiale, ou simplement le fait de savoir que l'image était dans la scène. Et ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que dans un cas, on sait, et puis dans un autre cas, on se souvient. Vous voyez, je sais, je me souviens. Et on voit la trajectoire des traces mnésiques après 3 jours et après 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la gauche, donc on va repérer les souvenirs qui avaient le statut de souvenir au bout de 3 jours et qui conservent le statut de souvenir au bout de 3 mois. Et on va mettre en évidence les régions du cerveau qui sont impliquées, vous voyez, à ces deux moments. Et on va mettre en évidence la petite région qui est entourée, l'implication des hippocampes. Et puis au contraire, les souvenirs qui ont vécu une autre vie, hein, c'est-à-dire qui restent, je parle toujours d'informations qui sont reconnues, hein, je ne parle pas de ce qui est oublié là, mais qui sont reconnues avec un autre statut, c'est-à-dire qui passent du statut de « je me souviens » à simplement « je sais », eh bien, cette fois-ci, on a un autre pattern cérébral qui concerne essentiellement le néocortex sans les hippocampes. Alors, ce que je vous ai dit là tout de suite, on a une partie de ce que je vous ai dit, on a essayé de résumer dans un modèle avec ma collaboratrice Béatrice Desgranges, qui s'appelle Mnésis. On retrouve, vous voyez, la pyramide de Tölving avec la mémoire perceptive, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, donc avec cette vision hiérarchique qui permet de comprendre des situations comme les enfants amnésiques, vous voyez, qui perdent la mémoire épisodique mais qui continuent de former des connaissances, y compris des connaissances de novo, hein, pour les enfants qui ont des lésions hippocampiques dès la naissance. Et puis on a organisé les choses un peu différemment. On a introduit la mémoire de travail au centre, hein, pour bien montrer le poids du sujet, en fait, dans les décisions du sujet, ce qu'on pourrait appeler l'espace conscient. On les relations avec des mémoires plus implicites, et puis sur la gauche, hein, c'est les flèches rouges, on a explicité également toutes les relations descendantes entre ces systèmes, hein, toute la vie en fait entre ces systèmes. C'est ce qu'on appelle un macro-modèle, hein, qui permet de représenter l'ensemble de la mémoire si c'est possible. Ça n'exclut pas, bien entendu, des travaux beaucoup plus pointus, hein, sur différents mécanismes. Voilà, et on a aussi par la suite explicité ce modèle dans un livre qui vient juste de paraître. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je m'excuse d'avoir été peut-être un peu long. Voilà.